France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Bonjour Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Quand les chefs de la diplomatie française et allemande insistent sur la nécessité d'une transition pacifique et inclusive en Syrie, ce matin avait lieu à Damas la toute première visite à ce niveau de responsable des grandes puissances occidentales. Nous serons sur place dès le début de ce journal. On se rendra aussi en Corée du Sud, toujours en proie à un scénario de très grande confusion à la fois sociale et politique. À suivre également l'actualité en France, avec tout d'abord le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou à l'Elysée. Nous serons par ailleurs à Mayotte où la population s'organise tant bien que mal pour se reconstruire après le passage du cyclone. Enfin, dernier volet aujourd'hui de notre série sur les transformations de nos grandes institutions tout au long de ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, direction l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Depuis la chute de Bachar al-Assad, ils sont déjà nombreux parmi les dirigeants arabes ou occidentaux à s'être précipités à Damas pour rompre l'isolement imposé à la Syrie après que le dictateur, désormais en fuite, avait réprimé dans le sang le soulèvement populaire de 2011. Autant de déplacements de nature à encourager l'espoir d'un retour à une Syrie stable et apaisée, et ce en dépit des inquiétudes toujours prégnantes autour du nouveau maître de Damas à la tête d'une coalition dirigée par des islamistes radicaux. Quoi qu'il en soit, ce matin, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est arrivé sur place, une première pour la représentation française. 13 ans après la fermeture de l'ambassade, le chef de la diplomatie s'est d'abord entretenu avec les représentants des communautés chrétiennes de la capitale avant de rencontrer les nouvelles autorités du pays. Arthur Saradin était sur place pour France Culture.
Bien, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve au pied du drapeau.
C'est une première depuis la fermeture de l'ambassade de France à Damas en 2012, la visite officielle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Dans la cour de la représentation diplomatique, face à la façade décrépie et délavée par le temps, une condamnation de l'ancien régime.
Nous avons quitté cette emprise du fait de la dégradation des conditions de sécurité à Damas, provoquée par la répression sanglante par le régime criminel de Bachar al-Assad de la révolution de 2011. Et il y a un peu moins d'un mois, un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens.
Jean-Noël Barrot salue ensuite le personnel resté s'occuper des lieux pendant toutes ces années et fait une annonce officielle à la presse.
Dans les semaines qui viennent, en fonction de l'évolution des conditions de sécurité, nous allons préparer progressivement les modalités de rétablissement de la présence française ici à Damas.
Plus tard cet après-midi, le ministre devrait rencontrer Ahmad Shera, le chef des nouvelles autorités syriennes. En plus de la reprise des contacts diplomatiques, plusieurs dossiers brûlants sont sur la table, la lutte contre l'État islamique et la transition démocratique que la France appelle de ses voeux.
Reculez un peu s'il vous plaît.
Un reportage à Damas de notre envoyé spécial Arthur Saradin.
Décidément, la Corée du Sud s'enfonce chaque jour davantage dans la confusion politique et judiciaire.
Après le coup de tonnerre provoqué le mois dernier par la tentative manquée du président d'imposer la loi martiale, le pays a vécu ce matin encore un nouvel épisode d'invraisemblable chaos. Pour la quatrième journée consécutive, les enquêteurs ont tenté en vain d'arrêter le chef de l'État suspendu, mais toujours officiellement en exercice, retranché dans sa résidence perchée sur les hauteurs d'un quartier chic de Séoul. Des enquêteurs empêchés en cela par une foule de partisans rassemblés dans les alentours, campant sur place jour et nuit, se disant prêts à en découdre, sans oublier également les très nombreux soldats placés sous les ordres du service de sécurité présidentiel. Notre correspondante sur place, Camille Ruiz, est allée ce matin à la rencontre des manifestants.
La situation reste extrêmement confuse devant le portail de la résidence du président Yoon Suk-yeol. L'échec de son arrestation dans la journée a revigoré ses partisans. Kim Min-sop est étudiant.
Ce mandat d'arrêt est clairement illégal. Le bureau d'enquête est en train d'enfreindre la loi. Je pense qu'il devrait retirer ce mandat contre le président Yoon Suk-yeol.
Ce matin, sur les coups de 8 heures, heure locale, près de 150 enquêteurs et policiers sont entrés dans l'enceinte du domaine. Ils y ont passé plus de 5 heures en vain. Il semble que ce soit un mur humain qui a empêché l'arrestation. Un mur formé de militaires et d'agents de la sécurité présidentielle, d'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Résultat, vers 13h40, heure locale, le bureau bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités suspend la tentative d'arrestation. En colère contre cet échec, les manifestants pro-démocratie, eux, se sont assis sur la route dès leur arrivée vers 17h. Ils bloquent actuellement toute une voie de circulation. Ryu Ji-eun a 27 ans. La jeune diplômée tient une bougie dans ses mains, symbole de la démocratie.
Tout cela n'a aucun sens. J'étais chez moi quand j'ai appris que les enquêteurs ne pouvaient pas procéder à l'arrestation. Je suis tellement en colère, c'est pour ça que je suis venue.
Le président déchu est toujours retranché dans sa résidence. Il avait déclaré souhaiter, je cite, « se battre jusqu'au bout ».
Reportage donc à Séoul, signé Camille Ruiz.
Le Congrès américain va-t-il à nouveau plonger dans la tourmente ?
La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui pour élire son président. Alors c'est traditionnellement une formalité, sauf que cette année, cette élection au perchoir est compliquée par la faible majorité des républicains. 5 sièges seulement, sans compter que face à l'opposition affichée de certains élus de son propre camp, eh bien, le speaker républicain Mike Johnson n'est pas assuré de conserver ce poste clé. Toujours aux États-Unis, une cour d'appel a aboli hier le principe dit de neutralité du net, censé garantir l'accès égalitaire au web sans que votre fournisseur d'accès ne puisse ralentir ou censurer certains sites, voire favoriser d'autres services. Alors, il se trouve que ce principe fait l'objet de très vifs débats depuis déjà 2 décennies. En l'occurrence, le républicain Donald Trump l'avait aboli durant son premier mandat avant que l'agence des télécoms FCC ne le rétablisse en avril dernier. Depuis hier, nouveau retour en arrière, donc, et ce avant même le retour du nouveau président élu à la Maison Blanche. En quoi est-ce un signal inquiétant? Camille Manière a posé la question à Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique.
C'est l'un des principes fondateurs de l'Internet, qui est de dire tous les contenus doivent être accessibles de la même manière sur l'ensemble du réseau, quels que soient les opérateurs ou les intermédiaires techniques qui le diffusent. Et donc, les lois qui ont visé à défendre ce principe avaient pour but d'empêcher que, en particulier, les opérateurs de télécommunications ne puissent bloquer, filtrer, dans notre jargon, on dit prioritiser, c'est un vilain terme, les flux en fonction de leur intérêt.
Alors, on en reparle à l'occasion d'une décision de justice américaine qui remet en cause ce principe qui, comme vous l'avez dit, a été inscrit dans la loi américaine par l'administration Obama. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi cette décision et en quoi elle remet en cause le principe?
Alors, l'idée, c'est de dire, ce n'est pas du pouvoir de la FCC, Federal Communication Commission, ce n'est pas de son pouvoir que de régler ça, et ça ne doit être fait qu'en termes, effectivement, de règlement transactionnel entre les différents acteurs économiques. Et effectivement, cette décision, elle remet en cause lourdement les relations entre les différents acteurs industriels de l'Internet dans les années à venir. C'est-à-dire que, en gros, tout l'héritage juridique et technologique des précédentes mandatures va progressivement être détricoté. C'est une forme de soumission préalable d'une partie, effectivement, de l'establishment juridique américain. Et ça pourrait mener, effectivement, à des hyperconcentrations, à des remises en cause des rapports de pouvoir entre les différents industriels qui n'iraient pas dans le bon sens, ça c'est clair.
Voilà Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, interrogé par Camille Magnard.
Midi 37 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Comme le veut la tradition, en début de nouvelle année, tous les ministres du gouvernement avaient rendez-vous à 9h ce matin pour un petit déjeuner de rentrée au ministère de l'Intérieur, avant de parcourir à pied les quelques dizaines de mètres qui séparent la place Beauvau du palais de l'Élysée pour y présenter leurs vœux au chef de l'État. Une courte procession devant les caméras, l'occasion d'afficher une équipe soudée autour de la personne de François Bayrou, et ce avant les premières retrouvailles officielle entre les deux têtes de l'exécutif. En réalité, les deux hommes ont déjà longuement déjeuné ensemble hier, manière sans doute de préparer au mieux justement ce conseil des ministres et surtout de dissiper les tensions nées de la nomination dans la douleur de François Bayrou, après que le patron du Modem, persuadé d'être l'homme de la situation dans les circonstances extrêmes créées par la dissolution de l'Assemblée, avait menacé, on s'en souvient, le président Emmanuel Macron d'une rupture éclatante et donc d'une nouvelle crise dans la crise s'il nommait une autre personnalité que lui à Matignon. Alors 3 semaines plus tard, chacun s'efforce désormais de relativiser. Est-ce que c'est paradoxalement une drôle de cohabitation qui semble devoir s'installer à présent entre d'un côté un président qui entend retrouver un peu de la lumière que lui avait volé Michel Barnier, puis de l'autre son allié historique, lequel plaide pour une relation de co-responsabilité tout en se défendant de toute inimitié avec le locataire de l'Élysée. Et d'ailleurs, à la demande de François Bayrou lui-même, le compte-rendu de cette réunion s'est fait de nouveau au palais présidentiel après avoir été délocalisé exceptionnellement à Matignon lors du mandat de son prédécesseur. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, le Conseil des ministres s'est donc terminé. Sait-on, Sophie, ce qu'il en est ressorti ?
Oui, le compte-rendu a commencé vers 12h10 et c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, l'ancienne sénatrice Les Républicains, qui répond encore en ce moment même aux questions des journalistes. Elle a commencé par dire son attachement à la liberté de la presse et à son engagement sur le sujet. Elle a évoqué ensuite le rapport aux citoyens qui peuvent, parfois, selon ses mots, ne pas se sentir représentés correctement. Ce Conseil des ministres, le premier sous François Bayrou, s'est achevé vers 11h. Depuis, une partie des ministres reste encore autour du président de la République pour un conseil de défense consacré à Mayotte, 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Ce matin, le Premier ministre a voulu motiver ses troupes en affirmant, je cite, qu'il existe un chemin pour sortir de cette période d'instabilité et qu'il est même mieux défini qu'on ne le croit, selon les mots du chef du gouvernement rapportés par son entourage. François Bayrou espère rester plus longtemps en poste à Matignon que son prédécesseur Michel Barnier, qui n'a pu gouverner que 3 petits mois seulement. Mais le nouveau chef du gouvernement ne dispose pas non plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, faute d'avoir pu élargir son gouvernement au-delà du centre et de la droite, et sans accord tacite avec l'extrême droite, contrairement à son prédécesseur. Sur le fond, la situation économique reste l'enjeu majeur en ce 3 janvier, et l'urgence aussi pour Mayotte, alors que le projet de loi qui lui sera consacré sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres pour l'archipel en ruine. Mayotte, qui était déjà, avant le passage du cyclone, le département le plus pauvre de France.
Merci Sophie Delpont en direct de l'Élysée avec Olivier Branger pour les moyens techniques. Alors, vous le rappeliez à l'instant, ce premier conseil des ministres aurait normalement dû se pencher sur la loi d'urgence pour Mayotte. Ce sera la semaine prochaine, donc le temps officiellement de peaufiner encore le texte avec les élus du territoire ultramarin. Et en attendant, près de 3 semaines après le passage du cyclone qui a dévasté l'archipel, les habitants, eux, tentent toujours de se raccrocher à la vie grâce à la distribution sous bonne escorte policière d'eau et de denrées alimentaires, mais pas seulement. Pour les plus fragiles en particulier, les Douka, ces épiceries de proximité, se présentent désormais comme des lieux précieux où s'exprime encore la solidarité, d'autant plus lorsque, par ailleurs, les prix des produits de première nécessité flambent, contrairement aux promesses répétées du gouvernement. Reportage à Kungu, la deuxième ville du département, avec nos envoyés spéciaux Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro.
Moi, je m'appelle Abdillahi Issouf.
L'un des épiciers du quartier Bambaou.
Là, je pèse des ailes du poulet. En chimaoré, on les appelle les mabawa. On vient acheter kilo par kilo, 500 grammes, 2 kilos, comme on veut. Les gens qui n'ont pas que de 2 euros, 1 euro, 3 euros, ils viennent s'approvisionner ici chaque jour.
Tomates, poulet.
Le douka, précieuse échoppe pour la voisine d'en face, Mama Yasser.
Ouais, on va là-bas, si on n'a pas l'argent, on fait un petit crédit comme ça. Il nous aide un peu, ça nous facilite, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Le douka fait crédit et par essence n'ambitionne pas de faire florès.
C'est la survie.
Ce que nous confirme ce patron d'un autre douka du quartier.
Ça, c'est un clou de toit. Il fixe le toll, oui. Tout le monde en a besoin. Je l'achetais au kilo à 8 euros. Et moi, je le revends à 8,50 euros. Donc, j'ai rajouté 50 centimes pour ne pas ruiner vraiment les gens des quartiers et tout ce qui en a besoin. Il ne faut pas trop marger. C'est une forme de solidarité.
Autre illustration avec un aliment de base, le pack de 6 litres de lait qui est passé de 15 à 21 euros dans les grandes surfaces. Ce n'est pas comme si le président de la République, Emmanuel Macron, n'avait pas promis le blocage des prix.
Un reportage à Mayotte signé Mathieu Laurent. Dernier épisode aujourd'hui de notre série Quart de siècle, quelles ont été les grandes transformations qui ont émaillé ces 25 dernières années. Pour le savoir, nous vous avons dressé durant toutes ces fêtes les portraits de plusieurs institutions centrales de la vie publique française et ce midi encore avec l'école des hautes études en sciences sociales. C'est là que Chloé Leprince y a rencontré l'enseignant-chercheur et historien Étienne Anheim, directeur d'études à l'EHESS. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Bonjour Étienne Anheim.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes membre de la revue des Annales depuis bientôt 20 ans, les Annales que vous avez dirigées de 2011 à 2018, et puis depuis bientôt 7 ans, vous dirigez aussi les éditions de l'EHESS que vous venez de quitter au 31 décembre. Les éditions de l'EHESS, ça représente à peu près 20-25 titres de sciences humaines et sociales par an et une quinzaine de revues. Alors récemment, la revue des Annales a publié un numéro autoportrait. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une série quart de siècle. Si on pense par exemple à l'interdisciplinarité, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui a changé en profondeur dans les sciences sociales depuis 25 ans, mais qui pourtant était déjà là à la création des annales par Marc Bloch et Lucien Febvre en 1929.
L'interdisciplinarité, c'est une marque de fabrique des annales depuis le début. C'est-à-dire ce qui caractérise les annales en 1929, c'est le fait d'avoir deux historiens qui décident de travailler surtout avec des économistes, aussi avec des sociologues, des psychologues. Donc, en fait, la revue naît sur un projet d'histoire, mais d'histoire ouverte à toutes les disciplines. Mais ces dialogues, ils se transforment selon les moments. Les alliances se déplacent et dans les années 2000, dans les années 2010, il y a eu d'autres dialogues interdisciplinaires qui ont été entamés, qui n'ont pas remplacé les précédents, mais qui s'y sont ajoutés. Par exemple, avec le droit, avec la philosophie, avec la littérature. Il y a eu un numéro important en 2010 sur les savoirs de la littérature.
Mais alors justement, est-ce que depuis 25-30 ans, ce qui se passe, c'est que les annales sont moins singulières ?
Alors c'est tout à fait vrai dans le sens où il y a un moment de création des annales où c'est une revue qui est portée certes par des gens importants mais qui sont marginaux. Et puis, il y a un moment où les annales s'installent progressivement, dans les années 50-60, devient une revue dominante. Les années 70-80, c'est le maximum du rayonnement qui est lié aussi au rayonnement de la langue française et de l'université française. Donc là, on est à 4-5 000 abonnés, ce qui est phénoménal. Il faut que les gens imaginent que 4-5 000 abonnés pour une revue savante, c'est énorme en français.
Aujourd'hui, c'est combien ?
Alors aujourd'hui, justement, on peut y venir. Les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'on est autour d'un millier d'abonnés, mais la plupart des gens ne lisent plus les annales à travers des abonnements papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des lecteurs des annales lisent les annales en ligne. Ça a toute une série de conséquences, en particulier parce que, et c'est là où c'est très lié à l'aspect intellectuel, ça inscrit les annales dans un paysage totalement mondialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annales sont accessibles en Extrême-Orient, en Afrique anglophone, qui sont des endroits où on n'avait quasiment pas d'abonnement autrefois. C'est-à-dire le bassin d'abonnés des annales, c'était largement l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Donc, un changement complet, mais qui est aussi une provincialisation ou un décentrement de la revue, parce qu'il faut aussi accepter de se dire qu'aujourd'hui, les annales sont une des voies des sciences sociales parmi d'autres, et que le prestige et l'hégémonie qu'elles ont pu exercer sur le champ de l'histoire sciences sociales dans les années 70-80 est un temps dépassé.
Le sous-titre de la revue n'a pas toujours été Histoire et sciences sociales, il a évolué au fur et à mesure du temps. Au début, il y avait des psychologues aux annales. On est quand même loin de ça aujourd'hui. Qui écrit dans les annales ?
Aujourd'hui, les annales sont une revue dont le centre de gravité est en histoire. Mais en vérité, ça l'a toujours été. On peut dire les choses autrement, c'est la revue d'histoire qui publie le plus de sociologues, d'anthropologues, d'économistes et qui essaye de donner la place la plus large aux autres disciplines. Mais ça reste une revue centrée sur l'histoire parce que, au fond, le projet des annales est un projet de recomposition des sciences sociales autour de l'histoire. C'est-à-dire que les sciences sociales, c'est une grande famille dans laquelle il y a des aînés et des cadets, dans laquelle il y a des gens qui sont arrivés plus tôt que d'autres. Et l'histoire et la philosophie sont des disciplines qui se structurent dès le 19e siècle, alors que d'autres, comme la sociologie ou même comme l'histoire de l'art, sont des disciplines dans lesquelles les chaires, les cursus sont créés beaucoup plus progressivement. Et donc, on a des formes de rivalité où beaucoup de projets intelligents ont porté sur le dialogue des sciences sociales, mais qu'en revanche, tout le monde n'avait pas la même vision de l'architecture.
Alors, je reviens à cette histoire de sous-titre, qu'on affiche que l'histoire soit une science sociale. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui a changé depuis 25 ans ?
Vous avez raison, c'est tout le sel de la virgule qui, à la fois, unit et sépare, diraient mes prédécesseurs qui ont choisi ce sous-titre au début des années 90. C'est pas histoire et science sociale, c'est histoire, virgule, science sociale. Une histoire qui soit une science sociale, mais qui dialogue aussi avec les sciences sociales dans son sens le plus large. Les années 2010, c'était un moment de renouvellement intellectuel sur le dialogue avec les sciences sociales, qui était en même temps un renouvellement des formes de communication scientifique, parce que la question du tournant numérique, la question du lancement d'une édition anglaise des annales, elle s'est posée à ce moment-là. Une édition anglaise à partir de 2012, un accord avec Cambridge University Press à partir de 2017, et donc une réflexion tout à fait nouvelle aussi sur le lectorat. Parce que écrire en français, écrire en anglais, ça n'est pas la même chose. Alors, être traduit, c'est bien, mais il n'y a pas que la traduction au sens littéraire, il y a la traduction au sens intellectuel. Qu'est-ce qui s'écrit depuis Paris ? Qu'est-ce qui peut se lire depuis Londres, New York, mais aussi l'Inde, la Chine ou le Nigeria ? Et ça nous a obligés à nous poser toute une série de questions qui sont de l'ordre de la traduction au sens très large, si vous voulez. Donc le travail des années 2010, c'est ça aussi aux Annales.
Mannheim, je rappelle que vous êtes historien, membre de la revue des Annales, que vous avez dirigé pendant de nombreuses années les éditions de l'EHESS. Et j'en profite pour dire que la revue des Annales a maintenant son podcast. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Chloé Leprince. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore humide dans le sud-ouest, partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 1 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.